vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous écoutez l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter la présentation du livre « Quand l'extrême droite rêve de faire école, une bataille culturelle et sociale » écrit par Grégory Chamba, que nous avons enregistré le 13 mars dernier à l'Université d'Évry. Bonne écoute.
Je vais vous présenter Greg en deux mots.
Donc, Grégory Chamba, il est syndicaliste dans les Yvelines, à Sud Éducation. Il est aussi, on va dire, militant pédagogique, même si je crois que tu n'appartiens pas à un mouvement en particulier. Tu interviens dans le champ de la pédagogie et également et dans le champ du syndicalisme de lutte. Il est l'auteur de plusieurs livres. Celui qui précède celui dont on va parler aujourd'hui, c'est l'École des réacs publicains, qui parlait déjà des conservateurs et des pédagogies fascistes ou ultra-conservatrices. Et aujourd'hui, on va parler de son petit opuscule, mais il expliquera aussi pourquoi, qui s'appelle « Quand l'extrême droite rêve de faire école, une bataille culturelle et sociale ». Ma première question, c'est, après justement ce bouquin qui s'appelait « L'école des réacs publicains, la pédagogie noire du FN et des néoconservateurs », pourquoi c'est ce livre et dans quelle urgence tu l'as écrit ?
Oui, d'abord bonjour à tous et à toutes, et puis un grand merci d'être présent aujourd'hui. Dans la présentation de François, j'aimerais aussi rajouter des petits points sur d'où je parle. Donc moi, je suis enseignant en collège, dans un dispositif qui accueille des élèves allophones, une UPE2A. Voilà, et je travaille à Mantes-la-Ville, et je le précise parce que Mantes-la-Ville, c'est aussi la première commune qui a été gérée par un maire Front National, de 2014 à 2020, il n'a pas été réélu aux dernières municipales, mais c'est aussi, alors entre autres, il y a plein d'entrées en Île-de-France, oui. C'est entre autres un des points d'entrée, enfin un des sur ce travail, pas que, parce que ce travail en fait sur au départ les discours réactionnaires sur l'école, c'est-à-dire pour aller assez vite, le déclinisme et la fameuse antienne « c'était mieux avant », c'est quelque chose sur lequel je travaille du fait de mes engagements militants, en gros depuis la fin des années 90, et à un moment où on commençait à voir dans les luttes sociales, Je pense en particulier au mouvement contre Claude Allègre, 98-99, qui était d'ailleurs concomitant du premier mouvement dans le 93, hein, puisque là en ce moment ils sont en lutte, nos camarades du 93, mais il y a déjà 25 ans, ils étaient en lutte pour pareil, les mêmes raisons, mais en parallèle il y avait un mouvement contre Claude Allègre et déjà pointait, y compris au sein du mouvement social, une tendance assez réactionnaire. Et donc le livre « L'école des réacs publicains », c'était un petit peu une synthèse de 15-20 ans de vagues de fond sur l'école où on en appelait déjà à la restauration de l'ordre, à la restauration de l'autorité, à un retour à une école de la Troisième République, une école de Jules Ferry totalement mythifiée, et où à l'époque, en première ligne, c'était avant tout des éditorialistes. Alain Finkielkraut, Natacha Polony, et puis quelques pamphlétaires, Jean... Ah mince, Brigelli, ça y est, le prénom Jean quelque chose Brigelli, Jean-Claude Brigelli, non, Jean-Claude Brialy, Jean-Paul, j'y suis, c'est le bon, Jean-Paul Brigelli, qui avait publié son fameux livre « La fabrique du crétin », vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, et qui, voilà, faisait des petits... à la fois dans la couverture, sur les couvertures des magazines, mais aussi en librairie, où on avait toute cette vague. Voilà. Et donc ce bouquin, il a presque 10 ans, pour faire vite, 2016. Et donc il avait un objectif un petit peu différent du nouveau, mais surtout la vraie différence, c'est le contexte et voilà, la situation actuelle. À l'époque de l'école des réacs publicains, il n'y avait pas Zemmour, il n'y avait pas Reconquête. Le Front National s'appelait encore, enfin le Rassemblement National s'appelait encore le Front National. On n'avait pas ce plafond de verre chez les fonctionnaires et aussi chez les enseignants du vote d'extrême droite qui a depuis volé en éclats. Et puis aussi, c'est pas rien, on n'avait pas Jean-Michel Blanquer, on n'avait pas Gabriel Attal. Et donc aujourd'hui, le contexte, il a changé, ce qui fait que moi, j'ai davantage tenu à porter la focale sur vraiment l'extrême droite, à savoir Rassemblement National, Reconquête, quelques groupuscules autour qui gravitent dans l'orbite de l'extrême droite, mais vraiment me resserrer là-dessus, parce que en fait, les réacs publicains, tels que je les appelais, avec les éditorialistes, ça y est, ils ont fait le job. Hein, ils ont assis l'hégémonie culturelle, médiatique, et une fois que le débat il est cadré par ce discours réactionnaire sur l'école, on passe à la phase suivante, qui est la phase politique, où on s'empare du pouvoir et on met en œuvre le programme qu'on souhaite appliquer, ce qui est le cas aujourd'hui. Enfin, on a à deux doigts d'avoir une victoire politique de l'extrême droite après la victoire culturelle. Donc on ne restera pas sur un côté un peu plombant, parce que voilà, cette victoire, en tout cas culturelle et idéologique, pour moi, elle est actée. Mais ça ne veut pas dire que voilà, on va se satisfaire de cet échec ou de cette première défaite. Et j'espère qu'au terme de la discussion, on pourra repartir aussi avec des pistes et puis avec l'énergie et la volonté de poursuivre le combat. Et c'est pour ça que ce livre, en fait, je l'ai voulu très bref, donc il fait 120 et quelques pages, 130 pages, pas cher pour que vous puissiez l'acheter. Mais surtout, le plus synthétique possible et le plus accessible possible, en faisant pas forcément un ouvrage de librairie, ou voilà, tant mieux s'ils vont en librairie, mais vraiment un outil militant dans les rencontres syndicales, dans des débats, dans des conférences, voilà, et qu'il soit une espèce de guide d'autodéfense intellectuelle contre les idées d'extrême droite sur le terrain de l'école, puisque moi je me place sur le terrain de l'école. Peut-être un mot là-dessus, pourquoi? Parce qu'en fait, cet aspect du combat de l'extrême droite aujourd'hui, il est très largement sous-estimé. C'est-à-dire qu'on ne place pas dans les priorités de l'extrême droite la question scolaire. On va parler d'immigration, on va parler d'Europe, on va parler de violence, tout un tas de choses. Or, en fait, historiquement et internationalement, la question scolaire et la question de l'école, elle est centrale dans le programme de l'extrême droite. Et elle est doublement centrale puisque c'est un de ses champs de bataille, Et j'ai dit tout à l'heure qu'il constituait en fait aujourd'hui une victoire idéologique pour l'extrême droite. Et puis, un élément de sa constitutive, de sa politique, et en particulier de sa politique de maintien au pouvoir. Alors, en France, on a l'extrême droite au pouvoir, dans des mairies, dans une quinzaine de mairies. Les mairies, elles ont un rôle dans la gestion des écoles, d'accord ? Donc, la question scolaire, elle est évidemment étudiée de ce point de vue des écoles, mais aussi au niveau international. Alors, Trump, Bolsonaro, deux présidents qui ont ensuite perdu, mais on voit qu'il y en a un qui serait totalement en capacité de revenir. Et puis, je prends deux autres exemples, en Hongrie et en Turquie, où là, on a un pouvoir autoritaire qui est installé depuis plus de 10 ans dans les deux cas, et qui tient, alors qui est arrivé au pouvoir aussi sur des questions scolaires, et qui tient à travers une gestion de l'école qui participe à son maintien et à son étouffement des oppositions, des contestations, au contrôle de la jeunesse, parce que ça c'est extrêmement important dans le maintien au pouvoir de l'extrême droite, et puis au contrôle des personnels de l'éducation. Et on retrouve ces invariants dans les mairies FN, dans les pays à l'international que j'ai cités, et puis dans l'histoire de l'extrême droite en France.
Moi, j'avais rédigé des questions de Pétain hier à la politique du RNFM aujourd'hui, ou à des associations comme Espérance Banlieue, ou plus dangereuses comme les Parents Vigilants. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'histoire se répète ou pas d'ailleurs, et en quoi, on va dire, depuis peut-être la Révolution française, je ne sais pas si tu reviendras aussi en arrière, jusqu'à aujourd'hui, il y a ce discours réactionnaire. Tu voulais d'ailleurs définir le mot réactionnaire.
Oui, peut-être c'est bien, oui, qu'on parte de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un réactionnaire? En fait, j'emprunte la définition que je mets dans le livre à Jean-Michel Barrault, qui est un des rares à avoir écrit sur l'école et l'extrême droite, sachant qu'en fait, ces livres, ils remontent maintenant à plus d'une vingtaine d'années. Et quand je disais qu'on sous-estime cette question, en fait, il n'y a pas de... Aujourd'hui, vous n'avez pas d'ouvrage sur l'école et l'extrême droite. À part celui-là, hein, mais ça n'existe pas. Et quand on prend... Alors, par contre, des livres sur l'extrême droite, il y en a Flores, mais la question scolaire, elle est rarement abordée ou de manière extrêmement rapide. Et donc l'idée, c'était aussi de combler un petit peu un vide, mais aussi de se poser la question de pourquoi il y a ce vide. Pourquoi il y a ce non-dit, pourquoi il y a cette sous-estimation d'un élément qui est central dans les principes et dans l'idéologie de l'extrême droite. Alors effectivement, moi j'ai voulu dans le livre un peu répondre à la question, à cette... lancinante formulation que je pense vous avez peut-être tous et toutes entendu, qui est en vrai, on n'a jamais essayé. Hein, peut-être qu'il faudrait essayer, on essaie la gauche, la droite, le centre, machin. On n'a jamais essayé, peut-être faudrait voir. C'est quelque chose qui se dit, y compris parfois dans des manifs. Hein, alors, pas forcément avec les gens syndiqués, militants, impliqués, mais des gens qui viennent pour le mouvement des retraites. Comme ça, on peut entendre, moi j'ai un manifestant, là, enfin, qui venait même aux AG sur Mantes, qui me dit un jour, ah, moi j'ai fait barrage à Macron au deuxième tour. Alors moi, au début, je croyais que c'est un lapsus, je me dis, ah non, mais en vrai, non, c'était pas un lapsus, quoi. Et donc, le livre, il veut répondre à ça. On n'a jamais essayé. Et donc, l'idée, c'est de dire si, en fait, on a essayé. Et de le dire à travers deux entrées. Une entrée historique, que je vais essayer de développer rapidement, et une entrée aussi internationale géographique. Parce qu'en fait, je pense que l'entrée historique est passionnante, qui est fondamentale pour comprendre les ressorts de cette question aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit celle qui parle le plus aujourd'hui. Alors, pas forcément aux jeunes, hein, mais dans la société, les références à l'extrême droite d'antan, etc.,
30,
y compris, ouais, un petit peu, mais de moins en moins. Les années 30, c'était il y a un siècle, hein. Bon, peut-être on peut avoir du mal à mettre en perspective, mais pour quelqu'un qui a 18 ans, c'était il y a 80 ans, mais nous presque, on a connu nos grands-parents, ils ont vécu les années 30. Mais en fait, les jeunes générations, les années 30, ça... donc oui, après, il y a des marqueurs, Deuxième Guerre mondiale, régime de Vichy, donc qui existent, mais Ça ne veut pas dire que j'écarte la question de l'histoire, mais je me dis que c'était important d'éclairer la question aussi sur d'autres biais. Donc la question dans l'actualité, c'est qu'est-ce qui se passe dans les pays où on a des régimes autoritaires. Ça ne m'intéresse pas forcément de savoir s'ils sont d'extrême droite ou pas, mais ils sont clairement autoritaires, Bolsonaro, Trump, Erdogan, Orban, on aurait pu dire, enfin, on aurait pu parler de, ouais, Poutine, Moby, enfin, malheureusement, voilà, aujourd'hui en Italie, donc ça, voilà, ça, et ça se développe. Et ça, ça me semblait aussi intéressant comme approche, parce que c'est aujourd'hui, c'est maintenant, la Hongrie, c'est pas loin, l'Italie, c'est encore plus proche, donc qu'est-ce qui se passe en matière d'éducation dans ces situations-là? Et puis, bah, il y a les mairies qu'il faut pas, aujourd'hui, concrètement, quand le Rassemblement national, il tient les rênes du pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait à l'Assemblée, ce qu'il fait dans les assemblées territoriales, tout ça, c'est des outils qu'on peut mobiliser pour éclairer, un petit peu conscientiser et ouvrir les yeux aux gens. Bref. Réactionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'un réactionnaire? Bah, du coup, ça va me permettre d'entrer dans la... Alors, de mémoire. Donc pour Jean-Michel Barrot, le réactionnaire, c'est un conservateur en colère qui se donne les moyens autoritaires de cette colère. C'est-à-dire que le conservateur, souvent, il attend, il regarde, il observe. Le réactionnaire, il agit. Hein, il n'est pas derrière, voilà, il est dans l'action et il agit comment? Il agit pour réformer, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de, voilà, d'être comme ça, juste comme observateur. Et il agit à reculons. Il agit à reculons de l'histoire, il agit à reculons de la justice sociale, il agit à reculons de l'égalité, il agit à reculons de la démocratie. Voilà la définition que Jean-Michel Barrot propose du réactionnaire. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir la nostalgie du passé et qui va mettre en œuvre toute une politique autoritaire pour rétablir ce passé ou du moins se rapprocher de sa vision à lui de ce passé. Et en matière d'éducation, bah, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est ce passé? Alors il y a deux aspects des choses. Il y a l'action de l'extrême droite à travers l'histoire sur la question scolaire. Et en fait, c'est inséparable de l'institution elle-même. Et cette institution scolaire, l'école de la Troisième République, voilà, l'école de Jules Ferry, elle porte aussi en elle-même des éléments conservateurs, réactionnaires, nationalistes, inégalitaires, injustes, discriminatoires, etc. C'est aussi un instrument de domination. Et donc, on ne peut pas comprendre l'articulation entre les deux si on ne pose pas ces deux questions. Pour le faire très vite et pour résumer, en fait, l'extrême droite, elle va moins combattre l'école, l'institution scolaire, qui, d'un certain point de vue, correspond aussi à sa vision du monde, que combattre celles et ceux qui veulent la transformer. C'est-à-dire que la cible pour les extrêmes droites, c'est pas l'école. En fait, c'est nous. C'est les syndicalistes, les pédagogues, les historiens critiques, les sociologues, tous ceux qui, au sein de l'institution, veulent la transformer et se satisfont pas de la façon dont elle fonctionne. Et donc, ces racines réactionnaires de l'institution, en fait, on les retrouve, tu parlais de la Révolution française, très vite. Alors, l'alphabétisation du peuple, elle démarre pas avec Jules Ferry. En fait, c'est un long et lent processus qui prend ses racines, si on veut schématiser, avec la réforme, le protestantisme, puisque le protestantisme, il repose sur l'idée que chacun et chacune doit avoir un accès direct au livre, ce qui implique de savoir lire. Et donc, pour le protestantisme, l'éducation, c'est une des bases de la foi et de l'engagement religieux. Dans les pays du Nord, dès le XVIe siècle, même dans les villages les plus reculés, on a des chiffres qui donnent 87-90% d'hommes et de femmes qui savent lire. D'accord ? Et d'ailleurs, énormément de figures protestantes vont se retrouver tout au long de l'histoire de l'éducation. Ferry, Ferdinand Buisson, etc. Il y a vraiment un apport du protestantisme à la question scolaire. Je dis ça, je ne suis pas protestant, donc je n'ai pas d'action ni de part. Voilà. Et en réaction, l'Église catholique, elle va instaurer, mettre en place ce qu'on appelle la contre-réforme. Et notamment le Concile de Trente, où elle va se dire « bah moi, je risque de perdre mon monopole et mon contrôle des âmes, il faut que je mette en place aussi mon propre réseau d'écoles pour les pauvres, hein, parce qu'il y avait déjà pour l'élite, et ça va être notamment le travail des frères des écoles chrétiennes, avec Jean-Baptiste Lassalle, qui va poser les bases de l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc dès le XVIIe siècle, c'est quoi les inventions des frères des écoles chrétiennes? C'est là où on est. Hein. C'est des classes, le départ, c'est des classes de niveau. C'est-à-dire, au même âge, on fait la même chose en même temps, alors qu'avant, on avait un enseignement individuel où il y avait un maître qui s'occupait alternativement et à tour de rôle des élèves. Donc voilà, là, je ne sais pas si vous imaginez la révolution que ça constitue de se dire on va mettre tous les élèves en même temps dans la même salle. Il va falloir mesurer, les évaluer. Donc comment on va évaluer? Il va falloir avoir des supports pédagogiques qui soient les mêmes, donc des manuels, parce que si on veut faire lire tous les élèves en même temps, il faut qu'ils aient le même support. On va avoir l'invention de l'estrade où le maître il surplombe les élèves, etc. Bref, je fais vite, bref, parce que ce n'est pas le sujet pile de ce qu'on raconte. Mais donc la contre-réforme de l'Église, c'est elle qui va amorcer cette alphabétisation en France. La Révolution française, malgré les déclarations d'égalité des citoyens et pas des citoyennes, en fait, d'après les historiens, je pense notamment à Jacques Ozouf et François Furet, en fait, la Révolution française, elle a simplement utilisé le projet éducatif de l'Église pour le mettre au service de la République. Il n'y a pas de révolution éducative ou pédagogique sous la Révolution française. Il y a la reprise du projet éducatif de l'Église et surtout, plus important, des méthodes dans une perspective de contrôle de la population. À tel point qu'en 1791, l'école relève du ministère de l'Intérieur. Alors au départ, c'est censé être momentané, mais ça va se prolonger jusqu'en 1824. Il n'y a pas de ministère de l'Instruction publique ou de l'Éducation nationale, c'est le ministère de l'Intérieur. Ça en dit quand même énormément sur la finalité de cet enseignement. Et puis en 1824, ça passe aux mains du ministère des Affaires ecclésiastiques. Et tout au long du 19e siècle, jusqu'à Jules Ferry, en fait, l'école, c'est un instrument d'ordre, c'est un outil d'ordre et de contrôle de la population. On voit ça avec Guizot, on voit ça avec Thiers, je vous passe les détails, jusqu'à Jules Ferry. Et donc, en fait, bon, l'extrême droite de l'époque, c'est la contre-révolution, c'est les anti-lumières, etc. Finalement, il y a adéquation entre le projet de l'institution et le projet des réactionnaires et des conservateurs. Donc, il n'y a pas forcément de contestation du système éducatif tel qu'il se met en place.
Ça, c'est un discours qu'on entend jamais, hein.
Ouais.
Convergence.
Après la Révolution française, il y a la Restauration, donc c'est les Blancs qui sont au pouvoir. Après, il y a Louis-Philippe, mais c'est quand même une bourgeoisie notable qui n'a pas des intérêts révolutionnaires, etc. Puis le Second Empire, la loi Falloux. En matière d'éducation, quand bien même il y aurait des idées libérales qui seraient avancées, on reste quand même sur l'idée qu'il faut contrôler. Par exemple, en 1834, le ministre Guizot, il écrit une lettre au directeur des écoles normales, donc c'est le ministre de l'époque qui a courrier officiel, et il dit « Le grand problème des sociétés modernes, c'est le gouvernement des esprits, car c'est l'ignorance qui rend le peuple turbulent et féroce. » C'est énorme. C'est l'ignorance. Donc si on veut un peuple sage et qui ne se rebelle pas, il ne faut pas qu'il soit ignorant, il faut qu'il soit instruit. Donc c'est l'ignorance qui rend le peuple turbulent et féroce. « L'instruction primaire universelle sera pour lui une des garanties de l'ordre et de la stabilité sociale. » Mais il rajoute, à condition de veiller à ne pas trop étendre l'enseignement et insister sur l'instruction morale et religieuse et de développer l'esprit d'ordre. Donc l'enjeu, en fait, c'est de développer le minimum de savoir et surtout pas des savoirs critiques. Et là, on a, après, il y aurait d'autres citations, mais c'est là, c'est le principe même des fondamentaux, hein, dont on nous rabâche les oreilles, c'est ça. Les fondamentaux, en fait, c'est cantonner à des savoirs minimums ce qu'on va transmettre aux enfants, lire, écrire, compter, et ne pas aborder du coup des savoirs qui seraient plus critiques, plus émancipateurs et plus contestataires de l'ordre établi. Donc ce qu'on nous rabat là sur les fondamentaux, et c'est dans tous les pays, hein, États-Unis, Brésil, c'est fondamentaux, fondamentaux, et en fait c'est en régression par rapport aux enseignements autres. Alors, l'histoire a un statut à part, parce qu'il y a une obsession de l'extrême droite pour l'histoire. Donc l'histoire, on va la garder, la géographie de moins en moins, mais les sciences évacuées, alors, pire que tout, les arts, ça hors de question. Il reste un autre fondamental, je ne sais pas qu'on dit, c'est le sport. D'accord ? Avec la volonté, comme en Hongrie, voilà. La discipline du corps, c'est par exemple le programme du Rassemblement national dans les années 2014, redresser les corps, redresser les esprits pour redresser la nation. Hein, on a ce triptyque-là. Et voilà. Et pour aller vite,
On va l'avoir un peu avec les Jeux Olympiques, là.
Ah ben, clairement. Ouais. Ah ouais. Mais en Hongrie, avant que c'était, je ne sais plus, c'était Attal ou Papendia qui a instauré la demi-heure de sport obligatoire. Puis c'est intéressant, hein, c'est sport, ce n'est pas éducation physique. Hein. C'est ce qui n'est pas la même chose. En France, en Hongrie, c'était déjà une heure de sport par jour. Ouais, ça rappelle, puis le SNU. On est en plein dedans. Donc oui, redresser les corps, c'est important pour réarmer la nation. On a tout ce discours qui est là. Et qu'est-ce qui se passe avec Jules Ferry? En fait, Jules Ferry, c'est lui aussi un homme d'ordre, un conservateur. Alors, opposé aux écoles catholiques, parce que, comme disait Eric, la Troisième République, elle est fragile. Bon, ça aurait pu basculer en monarchie. En fait, comme il n'y a pas vraiment de successeur, il n'y a pas vraiment d'héritier du trône, et qui se divisent, bon, ils ne sont pas majoritaires. Il y a deux courants dans les monarchistes d'alors. Donc, la République, c'est une voie, hein, qu'elle est votée. Et donc, Jules Ferry, évidemment, il combat cette école de l'Ancien Régime, comme il l'appelle, mais il combat tout autant l'école de la Commune. Jules Ferry, c'était le maire de Paris. Pendant la Commune de Paris. Donc 10 ans après, il garde le souvenir du soulèvement de la Commune et de son travail sur les questions éducatives et scolaires. Et il le dit très clairement, votez pour mes lois parce que c'est le meilleur moyen, dit-il, de clore l'ère des révolutions. Avec l'école de la Troisième République, on va clore l'ère des révolutions. Je vous rappelle, 1789, 1830, 1848, 1871. Donc depuis, des soulèvements, ouais, 1936, 1968, mais plus de révolution. Hein, donc là, pour le coup, l'école est là. Et c'est là où, en fait, où l'extrême droite, elle va rentrer en jeu, parce que si des gens comme Jules Ferry disent « on a été jusqu'au bout du principe et de l'objectif de la Révolution française en créant l'école publique gratuite, laïque et obligatoire », d'autres, au sein de l'école publique, y compris des très proches de Jules Ferry, enfin, en tout cas des très haut placés dans la hiérarchie, comme Ferdinand Buisson, vont dire « non, en fait, c'est pas la fin, c'est le début ». C'est maintenant qu'on a cette école publique gratuite, laïque et obligatoire, on va construire un outil d'émancipation, on va transformer cette école. Et des gens comme Ferdinand Buisson, lui, il est l'équivalent de Gesco, directeur. Oui, c'est voilà. C'est, donc il y a le ministre qui gère politiquement, et puis Gesco, lui, il organise les choses. Donc il est à peu près. Voilà. Et en fait, il se trouve que Ferdinand Buisson, sous le Second Empire, il était très proche des exilés français, mais et en particulier de ceux de la Première Internationale, et il va appeler auprès de lui des militants du mouvement ouvrier. Donc, je pense à Paul Robin, et puis à James Guillaume, deux militants de la Première... James Guillaume, c'est l'historien officiel de la Première Internationale, et avec James Guillaume, ils vont rédiger le dictionnaire de pédagogie, qui est en fait l'espèce de bible, entre guillemets, laïque, que chaque instituteur et chaque institutrice lit. Hein, reçoit dans les écoles normales, dans les écoles... Voilà, donc ils sont formés sur cette base-là. Et à Paul Robin, il va confier la tenue d'un orphelinat, l'orphelinat de Sans-Puits, un orphelinat donc public, hein, on est dans le cadre de l'école publique, mais d'inspiration libertaire. Très clairement, Paul Robin, il se réfère à l'enseignement intégral, et en particulier... Donc l'enseignement intégral, c'est prendre aussi bien en compte... Alors, c'est pas redresser les corps, les esprits, mais là, c'est prendre aussi bien en compte l'enseignement intellectuel... que l'enseignement manuel, que l'enseignement physique et que l'enseignement social. C'est-à-dire prendre l'individu dans toute sa dimension. Pas comme aujourd'hui, où on a le lycée général, où on réfléchit, lycée professionnel, voilà. Non, là, c'est un enseignement. Et justement, et le point, c'est la mixité. Il est dans un orphelinat où on va avoir des garçons et des filles en même temps. Et c'est ça qui va déclencher... la première campagne virulente de l'extrême droite avec Édouard Drumont, un pamphlétaire antisémite qui a écrit un ouvrage qui fait un succès à l'époque, La France juive, et qui est le directeur du journal La Libre Parole, sous-titré La France aux Français. Édouard Drumont, il va monter au créneau contre l'enseignement de Drumont, contre deux choses, contre la coéducation des sexes. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste de la mixité où les filles et les garçons sont ensemble, c'est on apprend la même chose. Dans les petites écoles en France, à l'époque, même si les classes n'étaient pas mixtes, il pouvait arriver que, faute d'effectifs suffisants, il y avait des garçons et des filles. Mais ils n'apprenaient pas la même chose. Ce n'était pas les mêmes programmes. Alors, oui, français, maths, etc. Mais il y a des activités spécifiques pour les unes et pour les autres. Là, c'est la coéducation des sexes. Et puis, c'est un enseignement qui ne met pas en avant le culte de la patrie et le nationalisme. Or, l'école de la Troisième République et de Jules Ferry, c'est une école qui vise la revanche sur la défaite par rapport à la Prusse. C'est les va-et-vient entre le passé et le présent. Et donc, en fait, assez vite après...
Le pouvoir, c'est les radicaux, c'est ça ?
À l'époque, ouais, là, c'est Spuller. Et effectivement, je ne sais pas trop où est, ça doit être la République modérée. C'est un des successeurs de Ferry, donc ça change. Mais oui, c'est... Et donc, il y a la tentative chez les enseignants et les enseignantes de fonder des premiers syndicats après la loi de 1884 sur les syndicats qui sont autorisés. On a... voilà. Sauf qu'en fait, les fonctionnaires n'ont pas le droit de se syndiquer. C'est interdit, puisque l'État n'étant pas un patron comme les autres... Et aux premières tentatives de création des syndicats d'enseignants, va y avoir le ministre de l'époque, c'est le successeur de Jules Ferry, Eugène Spuller, qui signe en 1887. Il écrit dans sa circulaire « L'autonomie des fonctionnaires s'appelle l'anarchie, et l'autonomie des sociétés de fonctionnaires, cela s'appelle l'anarchie organisée. Permettra-t-on aux instituteurs publics laïcs de se donner des chefs en dehors de leurs chefs naturels ? Des statuts en dehors de ceux de l'université. L'université à l'époque, ça veut dire l'école, l'éducation nationale. Depuis le premier empire, c'est comme ça qu'on l'appelle. De prendre des engagements autres que ceux que l'État reconnaît. Et donc on voit qu'on a à la fois dans la rue des oppositions farouches au proto-syndicalisme naissant, mais aussi au plus haut niveau où il s'agit de bâillonner cette opposition. Donc voilà, jusqu'en 14, l'obsession, c'est la même qu'aujourd'hui. C'est une école au service de la nation. Il faut réarmer la nation, il faut donner l'amour de la patrie, il faut de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, je cite notre président, il faut en finir avec la décivilisation. On a tout ça déjà en arrière-plan. Vient la Première Guerre mondiale, je suis long, mais c'est pas moi, c'est parce que ça dure longtemps l'histoire. Et dans l'entre-deux-guerres, en fait, apparaît quelque chose de très intéressant aussi, que j'ai pas dit, c'est que l'école de Jules Ferry, elle est tout sauf égalitaire. L'école de Jules Ferry, c'est un double système. C'est l'école primaire, hein, pour le peuple, publique, gratuite, laïque et obligatoire, jusqu'à 12, 14 ans. Enfin, 14 ans, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Front populaire. Donc, jusqu'à ce qu'ils sachent lire, écrire et compter. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça suffit. On ne veut pas aller plus loin. Et donc, il y a en parallèle à ce système d'enseignement primaire, ce qu'on appelle l'enseignement secondaire, public, mais payant, hein, réservé à une élite, sociale, à une élite économique, le collège, le lycée. Et pour entrer au collège, on ne va pas à l'école primaire. Pour entrer au collège, on va dans le propre réseau de ce qu'on appelle le petit collège ou le petit lycée, c'est-à-dire des classes spécifiques avec des enseignants détachés du second degré qui vont faire cours pour apprendre à lire, à écrire, à compter, mais aussi pour apprendre le latin, d'accord ? Fondamentale, puisque ça va être le latin l'instrument de sélection. Donc, à l'école primaire, on ne fait pas de latin, d'accord ? Dans le petit collège, petit lycée, oui, on fait du latin. Donc, quand bien même il y aurait des bourses pour essayer d'équilibrer tout ça, il n'y a pas de passerelle entre les deux. Elles existent, hein, mais les boursiers, c'est 2,3% des élèves. Donc, c'est vraiment infinitésimal. Et donc, après la Première Guerre mondiale, il y a tout un mouvement qui s'appelle le mouvement de les compagnons de l'Université Nouvelle, qui vont se mobiliser et se battre pour que, en fait, il y ait l'école unique. C'est-à-dire que tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, se retrouvent dans la même école. Un peu utopique, mais bon, déjà, c'est pas plus mal qu'une séparation de fait. Ça se met en place progressivement. En 1932, le collège public et le lycée deviennent gratuits. Cette sélection par l'argent, en fait, elle est remplacée par un examen d'entrée en sixième. Donc, on voit bien comment, déjà, une volonté de contourner... Et face à ce mouvement de l'école unique, eh ben, va se dresser l'extrême droite. D'alors, c'est l'Action française, d'accord, de Charles Maurras. Et ils vont être vent debout devant ce nivellement par le bas, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, devant cette école de la médiocrité, cette école qui vise en fait à soviétiser ou à franc-maçonner, dans le vocabulaire de l'époque, les cerveaux, en tout cas, ont régimenté pour les soviets, pour les bolcheviks, l'école, enfin, tous les discours qu'on va entendre aujourd'hui dans la bouche de Zemmour, Bolsonaro ou Trump. Et donc, bah, ils reprennent le fameux mot d'ordre de Charles Maurras, la démocratie, voilà l'ennemi. Donc, une opposition farouche à l'école unique, et quand je fais toujours les parallèles, bah, c'est l'opposition au collège unique, aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire le refus d'avoir... les enfants, tous les enfants dans la même école et avec la même éducation. C'est un des débats avec les groupes de niveau actuellement qui est central. Mais tous ces discours contre le collège unique, bah souvent je dis, mais alors, ouais, ok, il ne faut pas que tous les sixièmes dans la même classe, ou comme dit Le Pen et Macron, il faut commencer à sélectionner dès la cinquième. Mais pourquoi on ne commencerait pas au CP, en fait? Parce que l'école unique, c'est insupportable, parce qu'on met tous les élèves en même temps. Donc il faudrait, dès la maternelle, enfin, trier et dire, bah, voilà, on va en mettre certains qui vont faire des études longues. Ben pourquoi commencer à la sixième? C'est un peu perdre du temps. On sait dès le CP, je pense, dès la petite section, qui va réussir, qui ne va pas réussir. Donc c'est vraiment ce combat à 70 ans de distance qui fait écho. L'ennemi, c'est la démocratie scolaire, la démocratisation, puisqu'on n'est pas encore dans la démocratie scolaire, l'égalité et une même école pour tous et pour toutes.
Monsieur, mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national. Les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes malheureux et fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction gerbénosée. Le tiers-monde crève, les porcs s'empiffrent, l'attention monte, les chiens griffent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, marqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Hiroshima, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles croupissent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des courants. Des sages conduits à la démence, méthode devient ultra-violent. Système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Tout fini en règlement de compte, à coups de schlag, le sang inonde.
Pétain dans ta question. Ouais, bon, mais on dira un mot quand même. Bon, effectivement, alors Pétain, c'est, alors Pétain, je ne l'aborde pas dans la partie histoire, parce qu'en fait, le régime de Vichy, il a un statut particulier. Je le mets dans les expériences. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas simplement là une référence historique, c'est aujourd'hui, du moins chez Zemmour et chez une partie de l'extrême droite, la volonté de réhabiliter le régime de Pétain. C'est pas juste comme ça pour nous une référence, c'est pour eux vraiment central et le met, enfin Zemmour en tout cas, le met en avant. D'accord ? Et ça vaut le coup quand même de prendre deux minutes pour lire c'est quoi l'école de Vichy. Pour le maréchal Pétain, les responsables de la défaite, c'est pas les militaires, c'est jamais les militaires. En 1870-1914, c'est jamais les militaires. C'est les instituteurs et les institutrices, parce qu'en fait, les officiers français ont eu des instituteurs et des institutrices socialistes. Et c'est ce qui fait que, voilà, l'armée, la grande armée, a échoué face à l'Allemagne. Et donc, il va s'agir de redresser le pays, la révolution nationale. Mais au cœur de cette révolution nationale, c'est vraiment, vous allez voir, c'est l'école qui est présente. En quelques mois, le gouvernement pétainiste déroule son programme. Suspension des conseils et comités consultatifs, loi du 12 juillet 1840. Les pleins pouvoirs, c'est le 10 juillet, hein, loi du 12 juillet. Possibilité de révoquer tout fonctionnaire qui serait, je cite, un élément de désordre, loi du 17 juillet. Remplacement du recrutement par concours des inspecteurs par une nomination, loi du 2 août. Obligation de déclaration de non-appartenance à une société secrète, loi du 13 août. Rétablissement de l'enseignement des congrégations religieuses, loi du 3 septembre. Suppression des écoles normales d'instituteurs, c'est, ouvrez les guillemets, séminaire malfaisant de la démocratie, loi du 18 septembre. Exclusion des juifs des emplois universitaires dans le cadre du statut des juifs, loi du 3 octobre. Interdiction des syndicats et associations professionnelles de fonctionnaires, loi du 15 octobre. La CGT et la CFTC sont dissoutes le 9 novembre. Et enfin, introduction de l'enseignement des devoirs envers Dieu dans les programmes des écoles primaires, loi du 23 octobre. Donc on voit qu'entre le 12 juillet et le 23 octobre, tout le programme de mise au pas de l'école, de la jeunesse, mais d'abord des personnels, est déroulé et instauré. Hein, et Zemmour, il nous dit super bien. Viendront par la suite l'introduction de l'enseignement religieux comme option, et ça c'est important aussi, et la parité de subvention entre le public et le privé. Loi du 6 janvier 41, l'État donne autant d'argent au public qu'au privé. Le retour des crucifix dans les écoles publiques, circulaire de juillet 41, l'abrogation du droit de grève, loi du 4 octobre 41, et la fin de la gratuité de l'enseignement secondaire, dont je vous parlais tout à l'heure, loi et décret du 15 août 41. Après la Ligue des droits de l'homme, c'est au tour de la Ligue de l'enseignement d'être dissoute en avril 42. Donc là, on a, si on a essayé, et quand on essaye, voilà ce que ça donne. Et je pense que c'est assez parlant, ou en tout cas, il y a vraiment cette nostalgie. Voilà. Et après, je pense que, après la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite, elle est vraiment marginalisée. Elle va relever la tête, en particulier au moment de la décolonisation et sur la question de la guerre d'Algérie, de l'OAS. Les pro-OAS et les pro-Algérie française quittent Alger en incendiant la bibliothèque universitaire d'Alger. Parce qu'on n'allait pas quand même laisser les livres aux Algériens. Donc on brûle tout, c'est super. Bref, et ce qui est intéressant, mais je développerai peut-être par la suite, c'est que bah, dans cette impasse dans laquelle l'extrême droite se retrouve à la fin des années 60, combat de rue, le GUD, voilà, Occident, etc., mais ça va pas très très loin. Au niveau électoral, il y a eu la bulle poujadiste, et puis après, c'est retombé. L'OAS, c'est pareil, il n'y a pas de prolongement. Voilà. Et donc, il y a quelques jeunes universitaires d'extrême droite qui vont se réunir, qui vont fonder ce qu'on appelle qui fondent le GRES, le groupe de recherche et d'études de la civilisation européenne, ce qu'on appelle souvent la nouvelle droite. Donc, un tout petit peu avant mai 68, c'est en 68, mais c'est tout petit peu avant les événements. Et eux, ils se disent, voilà, politiquement, on est laminés. Continuer le coup de barre de fer dans le quartier latin, on voit pas où ça va nous mener. Non, il faut redéfinir la stratégie de l'extrême droite. Et pour la redéfinir, ils vont s'inspirer d'un penseur et militant marxiste italien, Antonio Gramsci, qui vont digérer de manière plus ou moins bref, la métapolitique, c'est-à-dire faire autre chose que de la politique politicienne électoraliste, c'est-à-dire en fait engager une bataille sur le terrain des idées, ce qu'on appelle la bataille culturelle, pour l'hégémonie culturelle. Sachant que l'idée de Gramsci, c'est que en fait, pour conquérir le pouvoir, il faut d'abord le conquérir dans les esprits, et maîtriser, ordonner, définir les cadres du débat, les cadres des enjeux, des questions qui sont posées. Et quand on a cette hégémonie culturelle et idéologique, en fait, le pouvoir politique, il tombe de lui-même. Ça devient une évidence qu'il faut... pour Gramsci, ça devient une évidence qu'il faut une révolution socialiste, parce que ça devient du bon sens et que tout le monde en est convaincu. Et donc, ces thèses de la nouvelle droite, ça va être, on va mener le combat sur le terrain des idées, sur le terrain du vocabulaire, beaucoup. C'est-à-dire que l'égalité, c'est une obsession à l'extrême droite. On ne va plus parler d'égalité, on va parler, par exemple, d'égalitarisme. On va dire, c'est insupportable, l'égalitarisme.
Comme le droit
de l'homme. Oui, exactement. Il y en a tout. Le démocratisme aussi. Et donc ça, c'est martelé à travers des médias, d'abord plus ou moins confidentiels, la nouvelle droite, à la fin des années 70, elle se voit confier quand même les rênes du Figaro Magazine, ce qui n'est pas rien. Enfin, voilà. Et puis dans les années 80, ça déroule. Et aujourd'hui, puisqu'on parle d'égalitarisme, il y a Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui dit « l'égalitarisme, voilà l'ennemi du service public ». Et on voit comment l'aboutissement, c'est que la classe dirigeante reprend quasiment mot pour mot. Alors, je prends l'exemple de l'égalitarisme, mais aujourd'hui, c'est les uniformes, le retour du SNU, la charge contre le collège unique, etc. etc. Mais je pense que...
Eh ben, c'est bien que tu abordes ces points-là. Parce que la question que je voulais te poser, c'est revenir peut-être à du très concret, ultra contemporain. D'une part, les agents... de cette bataille idéologique, qu'est-ce qu'ils font le FNRN dans leur commune, tu en as parlé plusieurs fois, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement? Peut-être tu peux aborder ou pas Espérance banlieue, mais c'est peut-être un phénomène un peu... Et puis, un phénomène qui nous apparaît très très brutal, les parents vigilants. Et puis tu as parlé rapidement là, du programme réactionnaire du gouvernement actuel, peut-être que tu peux aussi compléter... Avec ce que tu viens de dire, l'uniforme, le SNU, etc. Avant que, pour que ça soit moins plombant, on termine sur un aspect plus programmatique et plus qui nous ouvre des perspectives.
Ok. Du coup, c'est ce que je comprends dans ta question, c'est en fait c'est quelle est la place de l'éducation aujourd'hui dans les programmes des extrêmes droites en France, à l'étranger, comment elle déroule son programme et puis quels outils très précis elle met en place du type parents vigilants, école espérance banlieue pour agir et pas être juste dans le discours. En fait, il y a deux aspects, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a la question scolaire comme champ de bataille pour conquérir le pouvoir. C'est-à-dire qu'on va centrer le discours sur cette question-là et ça va être un des éléments de notre victoire électorale. C'est clairement ce qui a ouvert la porte... à la présidence au Brésil de Bolsonaro, c'est le soutien d'un groupe qui s'appelle, enfin d'un mouvement qui s'appelle l'école sans parti, qui, parce que Bolsonaro a rallié ses thèses, lui a permis vraiment, là, très concrètement, d'être élu. Et l'école sans parti, c'est un groupement de parents et d'étudiants extrêmement conservateurs qui veulent mettre sous surveillance les enseignements délivrés à l'école, notamment sur la question des enseignements antiracistes et antisexistes, et qui donc voulaient, y compris, placer des caméras, mais parfois ils l'ont fait dans des salles de classe, et après diffuser sur les réseaux sociaux, voyez ce qu'on apprend, etc., avec une obsession contre le marxisme culturel, comme il appelle, une figure comme Paulo Freire, le pédagogue brésilien, donc les pancartes sont brandies dans les manifs, et cette école sans parti, en fait, elle prétend défendre l'idée d'une école... d'une école neutre. En fait, comme ses opposants le disent, en fait, c'est une école neutralisée. C'est-à-dire que l'école sans parti, là encore, la gauche brésilienne, elle fait en vrai, c'est l'école du parti unique. C'est ça, votre école. C'est une école sans parti, c'est une école qui prend pas position, mais parce que du coup, on peut être raciste, on peut être sexiste, on peut être homophobe. Voilà, c'est ça que ça veut dire, votre école sans parti. Et donc, c'est...
avec une coloration évangélique très, très forte au Brésil. Les protestants, dont tu parlais tout à l'heure, mais la fondamentaliste.
Ouais. Et aux États-Unis, c'est la même chose. On a notamment le mouvement Moms for Liberty, qui envoie des candidats et des candidates dans les conseils d'administration des écoles, avec souvent comme résultat l'épuration des bibliothèques d'écoles, pas que d'universités. On met souvent en lumière ce qui se passe dans les campus états-uniens, mais dans les écoles, les collèges, voilà. Donc la liste des livres interdits, c'est pas où, alors c'est dans certains États, c'est pas à l'échelle fédérale, mais on a Pédagogie des opprimés de Paulo Freire qui est interdit, on a Maus, la bande dessinée antifasciste, voilà, qui est interdit, on a une adaptation en BD d'Anne Frank, c'est pas le journal d'Anne Frank, c'est l'adaptation en BD d'Anne Frank qui est interdite, et puis on a des livres pour la jeunesse, on a toute une série. Alors pourquoi? Il suffit qu'il y ait un petit bisou dans le livre. Donc hop, on met à la poubelle, voilà, toute une, enfin, ils prennent des prétextes pour vraiment épurer. Alors du coup, en fait, on a une bataille de mots, bataille sémantique. La cancel culture, elle est vraiment là, quoi. C'est là qu'elle est. C'est dans c'est quand l'extrême droite, elle élimine un certain nombre de références, ou en tout cas, elle interdit qu'on en parle. Et donc, pareil, alors, un peu différemment, mais c'est pas très loin, par exemple, en Hongrie, en 2022, pour les élections législatives, pour être sûr de s'assurer une majorité, Viktor Orban, il double le scrutin législatif sur un référendum sur la question de l'enseignement des théories du genre à l'école. Et donc, comme c'est un thème particulièrement porteur dans le milieu conservateur, on vote à la fois pour des candidats aux législatives et pour ce référendum, histoire de consolider un petit peu ce qu'ils appellent la révolution anti... c'est quoi ? Contre le... Ah, j'ai oublié, le socialisme identitaire, le socialisme culturel, ou je ne sais plus, scolaire, bref. En tout cas, il y a la volonté d'afficher un positionnement identitaire extrêmement fort. Donc ça, c'est à quoi ça sert. Et, par exemple, c'est de ça dont s'inspire Éric Zemmour avec Parents Vigilants. C'est vraiment du modèle brésilien. Il échoue au présidentiel, puis dans la foulée aux législatives, c'est encore pire. Et en septembre, tout de suite, il embraye sur le lancement d'un groupe qui s'appelle le Parents Vigilants. Et ce qui est intéressant, c'est que Parents Vigilants, il prend la suite d'autres mouvements, il s'ajoute à d'autres mouvements qui n'ont pas forcément disparu, comme SOS Éducation, qui existait depuis longtemps, et puis les JRE, les journées de retrait de l'école, en 2014, contre l'enseignement, les ABCD de l'égalité, qui étaient des enseignements sur les questions de genre mises en place et qui avaient suscité des journées de retrait de l'école avec une alliance de fondamentalistes catholiques, mais aussi musulmans, mais aussi protestants, hein, bref, tous les fondamentalistes là, qui étaient là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que les JRE, c'était en réaction à un événement. Aujourd'hui, avec Parents Vigilants, on a d'abord la création du groupe qui va être à l'affût de tout ce sur quoi il pourrait sauter. C'est-à-dire que le groupe est déjà constitué, il ne se constitue pas dans l'événement. Et voilà. Et sa mission, c'est de surveiller ce qui se passe. Et si on peut pousser un petit peu sur la vérité, aller un peu plus loin que ce qui se passe réellement, on n'hésite pas en mobilisant les réseaux sociaux, en mobilisant et en visant les parents. Parce qu'en fait, de Reconquête au Rassemblement National, on pourra en parler, mais on sent bien que du côté des enseignants, ça reste quand même assez difficile, la pénétration, elle existe, hein. Et elle existe de plus en plus. Mais c'est une des professions où le vote d'extrême droite est, en tout cas, le vote revendiqué. Après, je ne sais pas dans l'urne ce qui se passe, mais le vote revendiqué, il tourne autour de 10% quand ça monte à 20, 30% et puis même plus chez certaines professions en uniforme. Et donc, en fait, eux, ils vont davantage cibler les parents et aussi les grands-parents. C'est vraiment un cœur de cible parce que les grands-parents vont avoir une vision encore plus nostalgique de l'école de quand ils y étaient, puis souvent c'est eux qui font faire les devoirs le soir, etc. Donc ils voient le décalage entre eux. Effectivement, on n'est pas capable autour de la table, parce que le niveau baisse de façon drastique, de citer toutes les sous-préfectures de France.
C'était la SOS Éducation qui avait lancé comme ça une vigilance un petit peu sur les réseaux sociaux, et ça marchait très très bien, même dans des milieux progressistes qui pouvaient se faire piéger, quoi, par la nostalgie d'une école évidemment fantasmée.
Et il y a du fric, hein. SOS Éducation, c'est lié à des mouvements de lobbying aux États-Unis aussi. C'est comme les mouvements anti-impôts, anti-grève. Enfin, il y a toute une nébuleuse là dont SOS Éducation fait partie. Puis ils sont super forts. Si vous allez sur leur site, il y a des vidéos, hein, comment tenir sa classe, comment faire avec des élèves en situation de handicap. C'est vraiment une com extrêmement... voilà. Et Parents Vigilants, c'est le bulldozer. C'est faire peur. Et vraiment, c'est l'extrême droite. Hein. Faire peur, et plus on fait peur derrière, plus on va mettre en avant la politique du bouc émissaire. C'est la faute des woke, c'est la faute des féministes, c'est la faute des syndicalistes, c'est la faute des pédagogues, c'est la faute des immigrés, etc., etc. Et donc, il faut, la seule réponse, c'est expulser tout ça, virer tout ça, mettre une école unique, cadrée, pour cadrer la jeunesse, pour cadrer les personnels. Et évidemment, dans tout ça, vous n'entendrez jamais le mot « social », le mot « moyen », le mot « effectif », le mot argent, budget. C'est vraiment une vision purement idéologique de l'école, identitaire, mais qui mord sur aujourd'hui les politiques en œuvre, parce que effectivement, quand on est dans le discours et le salut au drapeau, tout ça, on n'est pas, il n'y a pas d'argent derrière, donc c'est bien. Et puis qui mord aujourd'hui du côté du gouvernement, Hein, qu'est-ce qu'on va faire ? À mettre des uniformes, pourquoi faire ? Pour masquer les inégalités ? Eh bien, on veut les masquer, on veut les supprimer. Enfin, moi, j'aime bien, hein, que ça sert à quoi l'uniforme ? Et on va masquer les inégalités. D'accord, super. Ouais.
Poser la question pourquoi on veut changer, pourquoi, et se donner les réponses, il y en a plusieurs.
Mais en tout cas, eux, ils veulent changer pour mettre au pas la jeunesse et pour mettre au pas les personnels
dans ton livre, l'éducation. Tu reprends à chaque fois, hein, le niveau baisse parce que les féministes, parce que les pédagogues, les sociologues, les historiens, c'est un mot important, quoi.
Oui.
Ce discours du niveau baisse depuis, paraît-il, l'Antiquité.
Ouais, il faut, pardon, juste terminer. En fait, il faut la décadence du système, son effondrement, pour qu'on ait besoin d'avoir recours à un sauveur ou une sauveuse. Hein, c'est constitutif. Il faut que l'école s'écroule. Il faut que le niveau baisse. Ouais, parce que dans ce cas-là, voilà. Après, on peut avoir la discussion. C'est intéressant. Des fois, je fais des débats mouvants sur ces questions-là et poser la question. Alors, est-ce que d'après vous, le niveau baisse ? Et donc le débat mouvant, c'est une partie qui se met là, oui, je suis d'accord, une autre partie, non, je suis pas d'accord, et on discute. Et c'est intéressant parce que, par exemple, on pourrait dire, bah oui, du fait de l'augmentation des effectifs dans nos classes, du manque de moyens, ça a comme conséquence le niveau qui baisse. Mais jamais ils vous diront ça. Ils vous diront, je vous prends Jacques Julliard. C'est sur la contamination, faut pas rigoler, pourquoi tu rigoles sur Jacques Julliard. Il a écrit un livre sur Fernand Pelloutier, sur le syndicalisme d'action directe. Les bourses du travail, tout ça. Donc, c'est pour vous dire la contamination. Jacques Julliard, donc c'est une figure de la CFDT autogestionnaire des années 70.
Il est mort il y a quelques mois. Là.
Puis de la deuxième gauche, comme tu disais, donc proche de Rocard, voilà. Et oui, du Nouvel Obs, puis Figaro, à la fin. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle « L'école est finie ». Et là, pour vous donner l'idée de la contamination de ce discours, c'est... il écrit dans son livre « Allons plus loin, puisque nous sommes là pour tout dire. Hein, parce qu'on ne peut plus rien dire, mais quand même, quand on est entre nous, on peut dire. Donc, en général, ça annonce des choses un peu rudes. Donc, je vous préviens. Ouais, je vous préviens, tenez. Si l'école de ce pays, le nôtre, la France, et c'est là son mérite et son destin, mais disons-le vite, n'était pas lourdement pénalisée à cause de la présence d'enfants d'immigrés non francophones qui souvent ignorent tout du français, son classement international remonterait singulièrement et rejoindrait sans doute l'exemplaire, la chimérique, la bienheureuse Finlande, à qui les pédagogistes un peu truqueurs attribuent des mérites qui ne sont en réalité que l'effet d'une grande homogénéité culturelle de départ.
Ah, c'est effrayant. Hein.
C'est un ancien homme de gauche, quoi. Enfin, Jacques Julliard. Qui... Et ça passe, crème.
Je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
On parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. C'est pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.